Avant, le stress. Qui suis-je avant l'illumination? Une boule de stress. Une poule de stress. Stress keep, disent les flamands. En véritable bourreau de travail, je m'agite de gauche à droite. Je fais tout en courant. En trottinant plutôt, car avec des escarpins qui me coupent le sang au-dessus des talons, élégance ne rime avec aisance que par la sonorité. À l'époque, je travaille comme traductrice à la maison et interprète, conférences, réunions, etc. Un jour, je suis en train de travailler dans mon bureau situé côté rue. Je suis souvent absente le jeudi, le jour de la semaine généralement prisé pour les réunions. Lorsque j'entends le bruit d'un moteur de camion, je réagis rapidement. Zut, j'ai oublié de sortir la poubelle hier soir. D'un bond, je me précipite vers la salle à manger qui sépare le bureau de la cuisine, traverse celle-ci en contournant la table, me prends le pied dans la dernière chaise, me précipite vers le fond de la cuisine, ouvre la porte de la buanderie, me rue vers la porte suivante qui mène au garage, dévale les 5 marches, attrape la poubelle et parcourt le chemin inverse au pas de course, le sac encombrant, butant sur la chaise déplacée dans l'épreuve sportive, puis une nouvelle fois sur le chambranle de la porte du couloir vers l'entrée, abaisser la clinche, ouvrir la porte. Dès le premier pas posé à l'extérieur, je constate que le camion a déjà dépassé les dernières maisons de la rue et fonce désormais sur la route longeant les champs. Je me résigne. Tant pis. Retour à la case départ pour la poubelle et à mon poste de travail pour moi. À peine installé, j'entends à nouveau le même bruit de moteur. Je comprends sur le champ. Le camion est allé faire demi-tour au chemin de remembrement du haut de la rue. Sans l'ombre d'une hésitation, je parcours à nouveau les méandres de la maison pour saisir la poubelle et l'amener à l'avant de la maison. Au moment d'abaisser la clinche, je vois passer le camion par la vitre translucide et le temps d'ouvrir la porte, le camion est déjà 2 maisons plus loin, dans l'autre sens. La poubelle parcourt donc le même trajet pour la 4e fois. Qui a dit que le travail du bureau était une occupation sédentaire? Râle l'ego. Pour me remettre de cette agitation, je décide de me préparer une tasse de thé. Pendant que l'eau chauffe dans la bouilloire, je passe à la toilette. La vue de la porte qui conduit à la buanderie me rappelle que j'ai oublié de retirer les vêtements de la machine que j'ai fait tourner la veille. Un petit pipi en vitesse et je me dépêche d'étendre le linge. Puis retourne à mon bureau, le thé depuis longtemps oublié, me souvenant seulement que j'ai des tracasseries administratives à régler. Un mal de tête me ralentit. Je voudrais prendre le repos dont j'ai besoin, mais je crains que la procrastination ne me cause un stress supplémentaire. J'ignore donc l'appel du cerveau. Vers 13h, consciente de la pression que le temps exerce sur moi, je fais une courte pause pour manger sur le pouce. Ce repas léger, une tartine ingurgitée avec un café, ne m'épargne pas le coup de pompe familier. J'hésite, puis décide de m'allonger une 20aine de minutes, tout en luttant contre le sentiment de culpabilité qui m'a envahi lorsque je suis passée à côté des cartons à remplir pour le déménagement, de la vaisselle sale dans l'évier, du linge qui attend d'être repassé. Bien que mon statut d'indépendante me confère l'avantage de pouvoir aménager mes horaires de travail, je me sens souvent tiraillée. Les délais de livraison des commandes de mes clients m'occasionnent un stress quasi permanent. J'ai hâte d'achever les traductions en cours, mais le mal de tête n'est jamais loin. J'essaie de me convaincre que j'ai pris la bonne décision. Autant prendre le repos dont j'ai besoin et reprendre mon travail plus tard, quitte à m'arrêter en début de nuit. Cette idée me décourage toutefois, car j'avais envie de me coucher tôt pour une fois. À mon habitude, à peine allongée, je suis assaillie de pensées, de souvenirs qui ont le don de susciter en moi des questions existentielles. Quel est le sens de cette vie? Pourquoi tant de stress? Les peurs vont-elles s'arrêter un jour? Ces moments de lucidité engendrent de terribles découragements. Je vois bien que je ressasse sans cesse les mêmes rengaines. Agacé par ce bouillon de pensée, j'essaie d'ignorer la voix grincheuse qui s'ingénie à me culpabiliser. J'aspire à trouver l'interrupteur pour débrancher ce cerveau, toutes ces mouettes là-haut. Le contrôle, toujours vouloir garder le contrôle, comme si je n'avais pas le droit de m'autoriser un peu de repos. Une vingtaine de minutes plus tard, je me relève, tenaillée par la pression du temps. Je n'ai vraiment pas l'impression de m'être reposée. Mon moulin à pensée ne s'étant pas arrêté un instant. Je redescends, m'installe à mon bureau et poursuis la traduction en cours, inconsciente des heures qui filent. Un regard à l'horloge me fait sursauter. Je travaille jusqu'à la dernière minute avant d'aller chercher mes enfants à l'école. La veille, j'ai annoncé aux filles, fêtant toutes les deux leur anniversaire le même mois, que je comptais les emmener après l'école au magasin de jouets pour qu'elles puissent choisir leurs cadeaux. J'ai prévu un petit goûter, jus de fruits et biscuits, les berlingots au frais dans le frigo et les biscuits sur le bureau. Au moment de partir, et alors que j'aurais déjà dû être derrière le volant, je décide de prendre aussi un biscuit pour moi, histoire d'éviter une hypoglycémie comme cela m'arrive régulièrement. J'éteins mon PC, trottine jusqu'au frigo, prends les jus, trottine vers la porte d'entrée. Je sors, ferme la porte à double tour, déverrouille la portière de la voiture. Zut de zut, j'ai oublié de prendre un biscuit pour moi. Retrottiner vers la porte d'entrée, double tour de clé dans l'autre sens. L'idée me traverse l'esprit que j'ai oublié de sortir la viande du congélateur pour le repas du soir. Hop, petit détour par la cave, sortir la viande du congélo, grimper 4 à 4 les escaliers de la cave, déposer la viande sur le plan de travail. Je ressors, fermer la porte d'entrée à double tour, ouvrir la portière de la voiture, laisser déverrouiller pour gagner la précieuse fraction de seconde. Juste avant d'embarquer, rezut, j'ai oublié de prendre mon biscuit dans le tiroir, pourtant pile poil sous le plan de travail où j'ai déposé la viande congelée, et de retrottiner jusqu'à la porte d'entrée. Double tour de clé dans l'autre sens, augmenter encore la cadence, ouvrir le tiroir, prendre le premier biscuit qui me tombe sous la main. Retrottiner vers la porte. Double tour de la clé, grimper dans la voiture. Ouf, je suis enfin derrière le volant. Arrivé au bout de la rue, une pensée me tenaille. Mais c'est pas vrai! J'ai oublié les biscuits des enfants sur mon bureau. J'opère un demi-tour, pestant contre la conscience professionnelle ou maternelle, récupère les 10 biscuits au pas de charge, trottinant bien sûr, toujours ses fichus talons, redémarre en me réjouissant qu'aucune voisine n'ait assisté à ce spectacle délirant et roule dangereusement vite. Je pousse un soupir de soulagement. J'ai atteint le parking à la sortie des classes. Me souvenant de mes propres angoisses d'enfant, je sais à quel point un enfant peut être malmené par ses condisciples et tiens à ce petit geste quotidien. Accueillir mes filles par un sourire. Je suis arrivée pile au moment où elles sortent de l'école, arborant un sourire jusqu'aux oreilles. Elles ont reçu chacune une énorme sucette de la directrice. Même pas faim. Les biscuits resteront dans mon sac à main. On se reposera quand on sera mort, disait ma mère en riant. L'indécision. À l'époque, je suis incapable de prendre une décision. Pétrie d'intuition et de peur. Comme dans Tintin, j'ai un mi-loup ange et un mi-loup diable. L'un du côté du ressenti, l'autre du côté du réfléchi. Le Milou côté cœur, lui, ne doute de rien. Il danse souvent la samba, émerveillé par la beauté de la vie et de la nature. Le Milou côté raison sort les boucliers, les mécanismes de défense et la ramassette, puisque l'autre là-haut n'en fait quand même qu'à sa tête. Je peux tenir des débats cérébraux interminables pour des bêtises. Ainsi, un jour en rentrant chez moi, j'entends un bruit caractéristique que je reconnais pour en avoir fait l'expérience moi-même. Une voiture roule avec un pneu crevé. Le conducteur s'en aperçoit et s'arrête à quelques mètres de moi. J'ai un élan du cœur et m'avance vers la voiture pour proposer mon aide. S'ensuit un dialogue infernal dans le ciboulot. « Qu'est-ce que tu peux y faire ?» Lui indiquer une centrale de pneus. Je cherche, je réfléchis. Je ne vois pas où il y en a une dans le centre de Bruxelles où j'ai emménagé entre-temps. Ou lui proposer de faire une recherche par Internet pour lui donner l'info d'un garagiste, d'une dépanneuse. « Ok, vas-y. » À cet instant, l'homme sort du véhicule. Il est vachement grand, costaud et n'a pas l'air réjoui. Je prends peur instantanément. « Comment veux-tu qu'il t'accueille ?» Une femme vient lui proposer de l'aide dans une situation typiquement masculine. Et s'il déversait son agressivité sur toi ? Ah, je te reconnais, c'est la peur qui parle. Oui, mais peut-être est-ce la prudence qui te parle ? Reste en dehors de ça. Et je suis rentrée. Je me dis que si je ne l'ai pas abordé, c'est que c'était la meilleure chose à faire dans cette circonstance. Mais peut-être pas. Mais si, je n'aurais pas été efficace de toute façon. Un tourbillon de pensées pour une situation qui ne me concerne même pas. J'apprendrai bien plus tard que j'ai le syndrome du sauveur, qui suscite en moi des élans du cœur en permanence. L'indécision contribue à mes courses contre le temps. Un jour, je gagne des places pour l'avant-première d'un film. Une collègue compte m'y accompagner, mais finalement se désiste. Je pense d'abord que c'est un signe pour que je n'y aille pas, moi non plus. Mais je me force à accepter l'idée d'y aller seule. Au moment de partir, je reçois un courriel de l'avocate qui me réclame, dans le cadre de mon divorce, une tonne de documents et me demande d'examiner son projet de requête. Je me dis, c'est que je ne dois pas y aller. J'entame la lecture du document quand Lison, ma cadette, vient me trouver. « Eh bien, tu ne sortais pas ce soir ?»« Si, mais bon, j'ai reçu un email important. C'est peut-être un signe que je ne dois pas y aller. »« Mais si, maman, vas-y, ça te fera du bien. »« Bon, si tu le dis, d'accord. » »« Comme j'ai pris du retard avec mes tergiversations, » je veux vérifier l'horaire du bus sur mon iPhone. Horaire en temps réel indisponible, annonce l'application. Décidément. Ma fille insiste. Je l'écoute et attrape mon sac à main. Crac, la bretelle se casse. Cette fois, c'est sûr, je dois rester chez moi. Et puis non. Je dédramatise et demande de l'aide à mon ado pour transvaser mes affaires dans un autre sac à main. Je la laisse achever le transfert pendant que je me dépêche d'enfiler mes bottes. Je prendrai le métro plutôt que le bus pour gagner du temps. Je cours dans les escaliers, me dépêche dans la rue, arrive devant la station. Ma carte de transport en commun est restée dans la poche latérale de l'autre sac. Demi-tour vers la maison au pas de charge. Monter 4 à 4 les étages, prendre ma carte, hésiter une fois de plus en m'interrogeant sur le sens de cette course folle, me demander si je ne ferais pas mieux de rester bien sagement à la maison, redévaler les escaliers en triple vitesse, courir jusqu'au métro, descendre les escaliers au pas de course, pour arriver sur le quai, pile au moment où retentit le bip de fermeture des portes. Bon. J'entame la lecture du journal que j'ai emmené. Prends le métro suivant, change à Bécant, m'installe dans la nouvelle rame et poursuis la lecture du soir. Je suis captivée par un article. Je consulte l'heure sur mon téléphone. 19h40. Ça va aller. D'ici maximum 10 minutes, je suis sur place. La séance est à 20h. Je me fais la réflexion. Faudrait pas que je loupe l'arrêt. Je relève donc la tête à intervalles réguliers pour vérifier où je suis. Alors que le métro roule en plein air, je reconnais, me semble-t-il, la longue allée de tram du Hesel. Je m'empresse de refermer mon journal et m'apprête à me lever pour descendre, mais me ravise. Je ne reconnais pas la station. Je rouvre mon journal pour achever la lecture de l'article qui me passionne. Une voix annonce. Stade Roi Baudouin, terminus. Hein ? Je m'adresse à la jeune femme assise en face de moi. On a passé la station Hesel alors ? Oui. Oh zut ! Ce n'est pas grave, vous pouvez rester assise. Le métro va repartir dans l'autre sens. Vous êtes sûre ? Je reste donc dans ce métro-ci. Oui, oui. Je me rassois déconfite. C'est encore la meilleure. Rater l'arrêt. Le métro m'étant un temps fou à repartir dans l'autre sens, je rentre chez moi, dépitée. En sortant de la station, je presse le pas. Je me reproche aussitôt de retomber dans mes travers. Qu'est-ce qui te prend à courir de nouveau ? Il n'y a plus d'urgence pourtant. Je raconte mon histoire à mon amie Tayane et lui confie mes doutes. Je me demande si je n'aurais pas mieux fait de considérer tous les contretemps comme des signes. Mais je suis tellement ambivalente devant les décisions. D'une part, je sais qu'il existe plusieurs phénomènes de transmission de pensée. J'ai tendance à y croire, surtout après avoir lu des livres comme « La prophétie des Andes » de James Redfield, qui encourage à toujours suivre son intuition. Mais en même temps, j'ai entendu dans deux films totalement différents une recommandation similaire. Dans le premier, un policier met en garde une jeune recrue. Si on a une intuition, notre cerveau ne va voir que les indices qui étayent l'intuition et on manquera les autres. Et dans le second, un acteur dit « Si elles reviennent, méfiez-vous de ces visions, ces hallucinations, car votre ego pourrait les modeler selon ses propres besoins. » Ce que j'ai tendance à croire aussi. Alors que faire ? Les deux, répond Tayane. Trouver le juste milieu. N'empêche que ce n'est pas du tout commode, surtout pour quelqu'un comme moi qui hésite toujours entre deux options. Je trouve souvent très difficile de prendre une décision et de m'y tenir. En même temps, comment faire la distinction entre ce qui m'appartient, disons mon droit au libre arbitre, mon individualité et ce que je détecte peut-être de l'inconscient collectif? Comment savoir quand écouter l'expérience d'autres humains et quand m'écouter moi? En plus, imagine si tout le monde faisait ça. De temps en temps, écouter sa petite voix, de temps en temps, écouter une autre personne, ou encore suivre des préceptes enseignés par l'une ou l'autre philosophie ou religion. Tu imagines ce que cela donnerait? Et l'harmonie, me rétorque mon ami. Les plantes et les animaux vivent déjà tous en harmonie. La nature est en équilibre, c'est l'humain qui fait l'andouille. Ce n'est pas faux. Nous sommes tous responsables de nos choix et nous sommes tous les mieux placés pour savoir que prendre et que laisser, ou encore que laisser provisoirement pour y revenir plus tard.
So deep in my soul lights a flame. It's called hope and no one can blow it out. This light I will share with you all. It's my love that can make you do the same. You know that's not just in some of us. You too have a flame in you, 'cause light's in everybody. If you let your light shine, you'll see people all around you will do the same. Love is our life's legacy. Do not doubt, just look at what I became. You know, that's not just in some of us. You do have a flame inside you. So if we can trust one another, trust me, love is the greatest gift ever. So why don't you all shine with me? Shed your light all around you and you'll see. You know light's not just in some of us, 'cause light is in everybody. You too have a flame inside you, 'cause love is for everybody. So deep in my young soul light's a flame. It's called hope and nothing, no one can blow it out. And if you can trust me, you'll see love is a gift. You'll see light is a gift.